Europe 1. On de la traconte, la suite du récit.
J'ai la sensation de m'enfoncer dans de la ouate. C'est irrésistible. Plus tard, Émile me fait descendre de voiture. Moi, je suis sans volonté, comme spectatrice de moi-même. C'est confus, hein. Mais je me souviens qu'il m'entraîne vers un champ. Je me souviens qu'il me pousse dans une cabane. Combien de temps s'est-il écoulé avant que je me retrouve nu sur le sol? Je sais pas. Ensuite, je sais qu'il me viole, d'abord avec des objets. Et après, il me laisse nu, bâillonné, les chevilles entravées et les mains liées dans le dos. Et il s'en va. Et la nuit tombe, je m'endors. Et quand je rouvre les yeux, c'est le petit matin. Émile vient me chercher vers 6 heures du matin. Il me détache, je me rhabille. Dans la voiture, je suis là sans y être. L'effet de la drogue n'est pas complètement dissipé. Et puis soudain, il arrête la voiture devant la gendarmerie. Il me fait descendre et il redémarre. J'entre chez les gendarmes, je suis décoiffé, ma robe est déchirée, j'ai des traces de liens et quelques hématomes. Je leur dis que je suis marié, que je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne leur parle pas de viol. Je veux pas me faire traiter de salope. Je veux pas les entendre dire que je l'ai sans doute cherché. Un gendarme me raccompagne à la maison. Ah, te voilà enfin, salope. T'as trompé ton mari, hein? Je t'avais bien dit qu'elle s'était barrée avec un mec. T'as pas trompé ton mari, hein? T'entends? T'as pas trompé ton mari? Et là, maman se met à me cogner et mon frère avec. Pourquoi est-ce que je parlerais? Elle ne me croirait pas. Un matin, j'avale des barbituriques. On m'emmène aux urgences et après dans un hôpital psychiatrique. Les visites sont interdites. Mais dès le premier jour, Émile débarque. Si tu ouvres ta gueule, ta mère, couic ! Et tous les jours, il vient s'assurer de ma docilité. Oh ben vous avez de la chance hein, d'avoir un papa comme ça. Il vient vous voir tous les jours. Oh, c'est rare, vous savez, c'est rare. Albert, mon mari, est militaire. Il a passé du temps à Djibouti, moi ça m'allait. Et puis il est rentré. Et ma mère rêve d'un bébé chocolat, comme elle dit. Mais comment ça se fait que t'es pas enceinte? Maman a découvert que je prenais la pilule depuis le début. Elle m'a accablé de reproches. Et Albert m'a flanqué deux paires de gifles. J'aurais tant aimé que cet enfant soit le fruit de l'amour. Elle s'appelle Eugénie. Elle naît à Draguignan, où Albert vient d'être muté. Et le jour même, Albert et ma mère se liguent pour me la voler. À ma sortie de la maternité, maman s'empare de ma petite Eugénie. Pas le droit de m'occuper d'elle, ni même de formuler un avis. Et pendant ce temps, pendant que maman est chez moi à Draguignan à s'occuper de ma fille, qui prend soin de Patrice et Céline, les deux enfants que l'assistance a confiés à ma mère? Émile! Céline a 8 ans. Elle est blonde comme les blés, avec de beaux yeux bleus. Quand maman finit par rentrer à la maison, la petite a beaucoup changé.
Oh ben tu te rends compte? Elle s'est mise à faire caca dans sa culotte, à son âge.
Mais c'est pas normal, maman. T'es sûr qu'Émile lui a pas balancé 2-3 baffes alors qu'elle avait rien fait?
Oh ben non, sûrement pas. Elle me l'aurait dit.
Encore une fois, ma mère refuse de se poser des questions. Elle préfère l'aveuglement à la vérité. Et la vérité, je l'ai apprise 22 ans plus tard. Céline a été violée par Émile. 8 ans! Maman a commencé à recevoir des appels anonymes, des voix de femmes.
Vous retrouverez vos enfants avec du barbelé autour du cou. On va les vitrioler.
Eh oui. Émile a encore amené une gamine à la pêche. Et la gamine est rentrée blessée avec le cou lacéré par des barbelés. Les plaies de cette gamine de 13 ou 14 ans étaient si profondes qu'il a fallu l'emmener à l'hôpital. Encore une pupille de la DAS placée par la préfecture de la Seine. Encore et encore. Émile n'a pas été inquiété. La famille d'accueil n'a pas dit qu'elle était allée à la pêche avec lui. Depuis quelque temps, Émile a une liaison avec Germaine qui accompagne les enfants dans son bus. Tout le monde le sait. Et il finit par quitter la maison pour vivre en concubinage avec elle. Maman souffre beaucoup. Est-ce qu'elle l'aime toujours ?
Oh, mais tout est la faute de cette femme. Émile, il y est pour rien. Cette femme, elle l'a entortillé, voilà tout. Il est complètement sous son emprise. Oh, ça se voit !
Elle a raison. Germaine a de la poigne et les pieds sur terre. Si j'en crois Émile, même au lit, elle décide de tout. Du quand, du comment et du combien de fois. Il ne peut pas se livrer sur elle à ses habituelles manies perverses. Est-ce que ça n'est pas cette frustration qui l'a fait basculer dans sa folie meurtrière? 6 disparitions se sont produites l'année où Émile a quitté la maison pour vivre avec elle. Et 3 autres avant sa séparation avec Germaine. Et le plus troublant, c'est qu'après chaque disparition, Émile va voir maman. Elle prétend qu'elle a coupé les ponts, mais elle le reçoit à la maison. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle en sait beaucoup plus long sur Émile qu'elle ne l'avoue. Est-ce qu'elle aurait pu parler ? Oui, mais elle était trop préoccupée par le qu'en dira-t-on. Elle a préféré le silence au déshonneur. La séparation avec mon mari, Albert, est houleuse. Quand elle m'entend prononcer le mot divorce, maman prend le parti d'Albert. La procédure dure 2 ans, et pendant 2 ans, maman refuse de me rendre génie. Durant ces années difficiles, je rencontre Bernard. Il est calme, il est modéré, il est solide, il est de bons conseils, il est plein d'humour. Et au fil du temps, notre amitié devient amoureuse. À dater de ce moment, je m'efforce de ne penser qu'à l'avenir. Mais les échos du drame de Lyon me rejettent dans le passé. Toutes ces choses qui ne devaient pas sortir de la famille et qui se retrouvent déversées sur la place publique. Le 5 juillet 1981, le corps d'une femme nue est découvert sous un tas de fumier dans un hangar agricole du Rouvray. Ce corps sera identifié comme celui de Sylviane Durand le Sage. Sylviane avait été placée dans son enfance chez Germaine, la concubine d'Émile. Et des témoins ont dit qu'ils avaient vu Émile avec elle, souvent. En décembre 1981, il est donc interpellé et placé en garde à vue et inculpé d'homicide involontaire et écroué. À cette occasion, les gendarmes procèdent au recensement des autres filles disparues dans la région d'Auxerre. Ils établissent une liste de 7 noms, toutes déficientes mentales, toutes pupilles ou anciennes pupilles de l'État. Jusque-là, on ne les avait jamais cherchées. Et Émile, qui les transportait en bus de leur famille d'accueil jusqu'à l'Institut médico-éducatif de Gratry, est le point commun de leur disparition. Les gendarmes me demandent « Selon vous, madame, est-ce que votre père est capable de tuer ?» Je connais la réponse. Elle m'a été donnée quand j'avais 11 ans dans ce petit bois de Saint-Florentin. Cette malheureuse est ventrée sous mes yeux. Mais je me ressaisis. Je m'accroche à l'idée que mon père n'est pas capable d'une telle monstruosité. Je crois pas que mon père soit capable de tuer. Il est capable de bien des choses. Mais peut-être pas de tuer. Au fond de moi, je sais que c'est fou. C'est un grand malade. Peut-être irresponsable, mais sans doute un psychopathe infiniment dangereux. Pourquoi est-ce que je ne dis pas ce que je pense? Pourquoi? Parce que j'ai donné ma parole à maman. Et que je la tiens. Parce qu'elle nous a demandé de nous serrer les coudes. Et que je le fais. Et puis, je suis incapable aujourd'hui de faire face à cette responsabilité énorme qui consiste à accabler mon père. Je sors d'un combat pour échapper à l'emprise de ma famille et pour récupérer ma fille. Je ne peux pas supporter la charge morale d'une accusation contre Émile. Je sors de l'enfer. Je commence à peine à vivre une vie normale. Ça serait trop me demander. Beaucoup trop. Je vais voir Émile en prison au tout début de son incarcération, en janvier 1982. Je veux entendre ses explications. On se parle séparé par un hygiaphone, une cloison en verre. Et il se met à pleurer, à se lamenter. « Je suis la victime innocente de machination. C'est Germaine. Elle veut se débarrasser de moi. Elle a inventé tout ça. Et pourtant, moi... Je dis pas ce qu'elle a fait au gamin, hein, Germaine. J'ai eu tort de lui rendre visite. Je l'ai cherché en vain. Je n'ai plus pour lui la moindre pitié. Et quant à moi, j'ai suffisamment honte de lui pour ne pas avoir de surcroît honte de moi. J'ai tiré ce récit du livre de Marilyn Vinet chez Michel Lafon, Être la fille d'Émile Louis.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.